La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans cette deuxième émission consacrée à l'une des figures les plus fascinantes de l'Afrique contemporaine. Considéré comme un héros national au Sénégal pour avoir été le premier député africain à porter le combat pour l'égalité des Noirs, Blaise Diagne incarne tout autant l'empire colonial français. En effet, c'est lui que Georges Clemenceau a choisi pendant la Première Guerre mondiale pour procéder au plus grand recrutement des tirailleurs de l'histoire.
Alors, en fait, on a retrouvé aux archives nationales, dans les papiers de Galando Diouf, les archives photographiques de la tournée de Blaise Diagne en AOF en 1918.
Deux albums aux photographies intactes, grâce auxquels nous pouvons retracer le parcours du recrutement des tirailleurs par celui que l'on surnomme à l'époque la Voix de l'Afrique. Blaise Diagne, une légende franco-africaine, c'est un documentaire proposé par RFI en partenariat avec les Archives nationales françaises. Ce second épisode nous entraîne sur les traces de Blaise Diagne dans le Haut-Sénégal-Niger. C'est le nom donné par le colonisateur français à l'immense territoire recouvrant l'actuel Mali et l'actuel Burkina Faso. Avec Jean-Pierre Batte, spécialiste de l'histoire de la France-Afrique, nous sommes venus rencontrer les anciens de la Maison des combattants de Bobo Dioulasso afin de partager avec eux le trésor d'archives photographiques qui appartenait à Galando Diouf, le fidèle compagnon politique de Blaise Diagne.
J'aimerais franchement vous remercier et pour cette initiative que vous avez eue de venir vers le bureau des anciens combattants et pour vous entretenir avec nous.
Alors, Valérie Nivelon.
Alors bonjour, bonjour à tous, merci d'être là.
Et moi je suis Jean-Pierre Batte, j'étais chargé de mission Afrique aux Archives nationales en France. Donc dans les archives de Galando Diouf, qui était l'ancien collaborateur de Blaise Diagne, nous avons retrouvé un album photographique puisque Galando Diouf a accompagné Blaise Diagne lorsqu'il était député dans le programme que lui avait confié Clemenceau, qui était organisé une levée en masse des recrutements de tirailleurs sénégalais en 1918 après les émeutes insurrections contre les recrutements forcés des années 1915-1916. Et on s'est aperçu qu'il avait établi son quartier général à la Koulouba et non pas à Dakar, et que depuis le Mali, d'où l'introduction de Valérie sur le Haut-Sénégal-Niger, en fait, il rayonnait du Sénégal vers le Mali, du Mali vers la Guinée, puis retour au Mali, puis du Mali à travers le Haut-Sénégal-Niger, avec de grandes escales en pays Bobo, Lobi, Mossi, où il remontait en fait ce qui va devenir à terme la Haute Volta. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il entretient avec différentes autorités, dont le Moronaba, des négociations politiques. Et le grand moment, c'est l'entrée de Blaise Diagne avec les villes, alors pour le Burkina, Bobo, Ouaga, pavoisées aux couleurs de la République française, avec à terme le moment fort qui est une palabre. Il y a une palabre avec une grande partie en tout cas des populations qui sont ramassées pour expliquer le projet de Blaise Diagne. Alors maintenant, on va peut-être vous présenter les photos.
Donc nous sommes en 1918, Blaise Diagne est arrivé à Dakar en février. Peut-être à vous la parole et peut-être à vous de nous dire, à votre avis, où nous nous situons là. Est-ce que vous reconnaissez un quartier particulier de Bobo Dioulasso?
Bon, ça ressemble au plus vieux quartier de Bobo, qui est Dioulassoba, le quartier des fondateurs de la ville.
Le quartier des fondateurs de la ville, hein, Dioulassoba.
Qu'est-ce qui fait que les autorités de Dioulassoba acceptent de donner des enfants de Bobo à la campagne de recrutement de Blaise Diagne? Qu'est-ce qui fait que les chefferies traditionnelles acceptent ça alors que depuis 3 ans, il y a des insurrections, on refuse en permanence?
Mais ils n'avaient pas le choix. C'était des forces qu'on amenait les gens dans l'armée en ce temps-là. Les autorités ne donnent pas leurs enfants comme ça. Hein. C'était des forces. Les amener de force.
Exactement, le recrutement, c'était la force. Quand on voit quelqu'un qui est en forme, il répond, on le prend de force, on l'envoie. Malgré le refus des parents, malgré le refus de la famille, on l'amène.
Mais ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui change en 1918? Parce qu'en 1918, le recrutement ne se fait pas dans la violence. Il est fait par un Africain, Blaise Diagne, qui est député au Parlement français. Et on se pose la question de quelles négociations il y a eu entre Blaise Diagne et les chefs pour que le recrutement soit possible en 1918, alors qu'avant, il ne l'était pas. Monsieur, redites-moi votre nom.
Oui, Dissa Soumana. Blaise Diagne, le fait qu'il soit député, ça veut dire qu'il est député au nom de toute la OEF. Donc, si les Français ont besoin de quelque chose sur son territoire, c'est lui qui est bien placé d'aller vers ses 10 électeurs.
Et quand il fait ce recrutement dans les palabres, il dit au chef, en versant le même sang, vous obtiendrez les mêmes droits.
C'était pour les flatter. Ah ouais, pour avoir leur consensus, il fallait les flatter, quoi. Voilà. Ils se sont dit que certainement si leur fils partait effectivement en France, au retour, ils allaient avoir les mêmes droits. C'est la politique. Ah voilà, c'était la politique, il fallait les flatter pour pouvoir avoir ce qu'on veut, c'est tout.
Alors, on va vous montrer d'autres photos parce que vous allez voir que, à la différence de Ouagadougou, où la rencontre elle se fait avec les chefs coutumiers, ici la rencontre se fait avec les chefs religieux. Donc, on va vous montrer une photographie.
À mon avis, si vous prenez à partir du centre en allant vers le nord, la région est majoritairement Mossi. Ils ont presque les mêmes coutumes. Et généralement, c'est autour d'un chef coutumier que l'autorité s'exerce. Donc là-bas, ils sont facilement, ils peuvent s'identifier à un seul homme qui les représente.
Est-ce que les chefs religieux, monsieur, est-ce que l'imam de la famille royale, ici à Bobo-Dioulasso, pourrait être cette personnalité qui fédère consensuellement les différents groupes?
C'était difficile à Bobo, ça ne pouvait être qu'une minorité. Ça ne pouvait pas couvrir toute la zone de Bobo-Dioulasso, ce n'est pas possible. Il y a plusieurs ethnies, donc plusieurs cultures. Et ce qui fait que, bon, un chef consensuel qui va représenter tout le monde, c'est difficile. Parce que ce n'est pas les mêmes ethnies, ce n'est pas les mêmes coutumes, comme je le disais. Et voilà, donc ce n'était pas possible.
Même si c'est un chef religieux?
Même si c'est un chef religieux. Parce qu'il n'a pas de rapport direct avec lui. Alors que, bon, au niveau de Ouagadougou, comme je l'ai dit, entre Mossi, la même langue se parlant à certains niveaux, bon, ils se retrouvent et ils acceptent. Et l'ancien l'a dit tantôt, des gens ont été fait la guerre, 10 ans, 15 ans sont revenus sans aucun droit. Ils sont repartis à la terre comme des misérables. Et ils sont morts sans aucune pension, sans aucune reconnaissance. Cette histoire du citoyen français, c'était du bluff. Ils n'ont rien eu comme avantage.
Le soleil est au zénith. Lorsque nous prenons une photo de groupe devant la maison du combattant de Bobo-Dioulasso, nous sommes à deux pas du marché, de la gare ferroviaire, vestige de l'architecture coloniale. Nous filons vers le vieux quartier de Dioulasso-Ba, visiter la mosquée et trouver un peu de fraîcheur avant de rencontrer le meilleur historien de la ville. Il a pu inventorier les archives du cercle de Bobo-Dioulasso. Mais saura-t-il nous révéler comment Blaise Diagne a pu recruter dans un territoire marqué par les révoltes de 1915 et 1916?
Je suis Doty Bruno Sanou. Je suis du village de Tiguion, à Sia. Je suis historien et donc je suis devant la maison où j'ai fait mon enfance, où je suis né, où j'ai fait mon enfance. Et vous êtes dans mon village, nous sommes devant cet hôtel qui montre que c'est un village. Ouais, tout village Bobo a un tel hôtel, en terre, en banco, pétri.
Si l'on se transporte un siècle en arrière, en 1918, qu'est-ce que voit Blaise Diagne lorsqu'il arrive ici, dans l'actuel Bobo-Dioulasso? Quelles sont les premières architectures qu'il peut voir au loin, qui lui indiquent son arrivée dans les anciens villages qui constituent aujourd'hui Bobo-Dioulasso?
D'abord, c'est la mosquée, la grande mosquée construite à la fin du 9e siècle, qu'on appelle la mosquée de Dioulasso-Ba, visible par tout le monde, en hauteur. En dehors de la grande mosquée, il n'y avait pas de bâtiment aussi imposant. Donc nous sommes en 1918, la ville est encore en construction. Vous avez la cour du chef, la chefferie du canton, qui reçoit des populations venant de différents villages, soit pour les jugements, soit pour le recrutement des travaux forcés.
Et justement, Bruno, cette cour de chef de canton, vous la reconnaissez sur cette photographie qui date d'un siècle?
Je peux le confirmer parce que quand j'étais enfant, j'allais dans cette cour, je passais devant. Donc ça ne fait aucun doute que c'est la cour du chef de canton.
Et Blaise Diagne, ce que l'on voit sur les photos aussi, c'est qu'il vient rencontrer les chefs musulmans. Est-ce qu'à l'époque, en 1918, les chefs musulmans constituent la plus haute autorité à qui l'on vient se présenter lorsqu'on arrive anciennement à Bobo-Dioulasso?
La plus haute autorité pour l'administration à l'époque, c'est la chefferie de canton, pas la chefferie musulmane. Et nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale. Forcément, pour une pacification de la région, du siècle, il fallait rencontrer les différentes autorités, notamment la chefferie musulmane, qui constitue une force à l'époque.
L'enjeu, j'imagine, pour Blaise Diagne à l'époque, est très important. Dans quelle situation se retrouve cette administration coloniale et que s'est-il passé ici avant que Blaise Diagne arrive justement?
Mais la région du siècle de Bobo-Dioulasso était une région très difficile. Lorsque, en 1914, Maubert a succédé à Georges Chéron, les deux administrateurs avaient des pratiques totalement différentes, même opposées. Georges Chéron était un docteur en droit, un avocat à la cour d'appel de Paris. Et Georges Chéron était très humain. Il a refusé d'appliquer le régime de l'indigénat que l'administration coloniale française avait imposé. Mais par contre, Maubert, lui, il était pour le régime de l'indigénat. Donc, je dirais que Maubert était un inhumain. Il était inhumain. Et il a causé beaucoup de tort aux populations. Il se faisait appeler commandant Soleil, Téré, ou bien commandant Piment Foronto. Donc, il terrorisait les populations.
Quelles ont été les réactions de la population, justement?
Justement, cette population a réagi violemment. Et à Yoroko-Fesso, les gens se sont rébellés. Et la rébellion née à Yoroko-Fesso est allée en s'amplifiant au nord de Bobo, jusque dans la zone de Dédougou. Et en 1916, l'armée française était débordée. Ce qui fait que, à la fin de la rébellion, le commandant Maubert et le commandant Ayo, qui commandaient le cercle de Dédougou, ont passé au tribunal et ont été condamnés pour leur système administratif qui a soulevé les populations.
Gros enjeu donc pour Blaise Diagne lorsqu'il arrive ici à Bobo-Dioulasso en 1918. Il vient se présenter aux autorités locales, qu'elles soient coutumières, qu'elles soient administratives, coloniales, qu'elles soient religieuses. Quelle stratégie met-il en œuvre, à votre avis, Bruno, pour réussir son recrutement dans une terre de révolte, dans une terre qui a quasiment maté l'armée française 2 ans plus tôt?
Alors pour faire ce recrutement, forcément il ne va pas s'adresser au chef de canton, qui sont contestés parce que Maubert les a utilisés contre les populations. Il va passer par d'autres groupes, notamment par les notables religieux, pour un peu apaiser les populations dans les villages. Pour Blaise Diagne, il ne s'agit pas seulement du recrutement, mais il y a aussi l'effort de guerre à consentir pour l'alimentation de ceux qui sont recrutés. C'est ça l'effort de guerre, pas forcément les militaires.
Donc vous pensez qu'il a joué aussi, Blaise Diagne, sur la mauvaise réputation de Maubert en disant « Je vous promets que les choses vont changer si vous consentez à faire le sacrifice du sang pour la France ?»
Oui, ce qui a convaincu les populations, c'est que Maubert a passé au tribunal. Il a été condamné. Ça veut dire que la France, selon les propos de Blaise Diagne, était décidé à changer les choses.
Et juste après, Blaise Diagne arrive.
Voilà, il s'agissait de convaincre les populations de faire un peu plus d'efforts de guerre afin que, à la fin de la guerre, en cas de victoire de la France et de ses alliés, les choses changent.
Un même sang versé pour les mêmes droits. Les promesses faites aux indigènes par Blaise Diagne sont donc crédibles en 1918. Nommé par le président Georges Clemenceau, il représente la République française, cette France qui a condamné l'administrateur Maubert pour sa cruauté. Blaise Diagne a convaincu les chefs et il les remercie avec des primes et puis des médailles, ce qui redore leur prestige, mis à mal par la colonisation. Avant de repartir sur Ouaga, je demande à Bruno Dottissanou quel souvenir a laissé le passage de Blaise Diagne ici, à Bobo-Dioulasso.
Blaise Diagne était le député de l'AOF. Il a sillonné l'AOF en 1918. Je n'étais pas né. Mon père n'était même pas né. Mais ce que je retiens, c'est la musique que les balafonistes chantaient jusque dans les années 1975-76, hein, dans les cabarets. Aïbo sera la député Diagne Benana. Aïbo sera la Wolfo Diagne Benana. Aïbo sera la député Diagne Benana. Aïbo sera la Wolfo Diagne Benana. Aïbo sera la député Diagne Benana. Aïbo sera la Wolfo Diagne Benana. Dans cette musique, on dit Blaise Diagne arrive. Ouvrez-lui la voie. Blaise Diagne, le Wolof, arrive. Ouvrez-lui la voie. Alors donc, les gens dansaient bien à cette musique parce que Blaise Diagne était considéré aussi comme le sauveur des Noirs. Oui.
Ça donnait une version de l'histoire plutôt très positive.
Très positive, oui, parce que Diagne était considéré comme celui qui se battait pour les Africains. C'était l'espoir des Africains à l'époque.
Alors vous, Bruno, qui êtes... vraiment un enfant du cœur de Bobo-Dioulasso, qui avait cette mémoire par la chanson du recrutement des tirailleurs par Blaise Diagne, qui avait la passion de l'histoire de votre ville, de vos racines et de votre histoire partagée avec nous, les Français. Franchement, Blaise Diagne pour vous, c'est quelqu'un qui était sincère quand il promettait des droits, quand il disait ça va changer, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a manipulé les populations ?
Difficile à le dire, mais je pense que le contexte dans lequel Blaise Diagne a exécuté son mandat de député n'était pas un contexte facile. Effectivement, on peut penser qu'il a manipulé les populations, mais on n'a pas aussi le combat qu'il menait auprès de l'administration pour que les choses changent. Mais je vous dis, durant cette période, pratiquement de 1897 pour Bobo-Dioulasso jusqu'en 1918 et même plus, aucune personne ne pouvait être sûre de ce qu'elle disait aux populations. Ce n'est pas vrai. Alors Blaise Diagne, il n'avait pas autant de force au niveau du palais Bourbon comme les Houphouët-Boigny et Ouédraogo Coulibaly l'ont eu, parce qu'il y avait beaucoup de députés après 1946 au palais Bourbon, mais Blaise Diagne était le seul, le premier. Et qu'est-ce qu'il pouvait à l'époque ? C'était un député qui avait peut-être envie que les choses changent, mais il n'en avait pas les possibilités.
Blaise Diagne, une légende franco-africaine. C'est un documentaire proposé par RFI en partenariat avec les Archives nationales et c'est à suivre sur la Radio Mondiale.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes au Burkina Faso sur les traces de la mission Blaise Diagne, chargée de recruter 50 000 tirailleurs en 1918. Blaise Diagne est le premier député africain de l'histoire, nommé par le président Clémenceau, commissaire de la République en charge du recrutement. Après avoir sillonné le Sénégal et la Guinée française, les 350 membres de sa mission poursuivent leur action de propagande dans la boucle du Niger. Il s'agit de convaincre les chefs indigènes de reprendre l'effort de guerre. Direction Ouagadougou, où un siècle après, je viens montrer les photos du recrutement à l'association des anciens combattants de la capitale burkinabé.
Mais vraiment, c'est surprenant de voir un noir parmi des blancs et qui semble être le chef. Ça nous émerveille et puis ça nous fait plaisir. C'est du rarissime. Des images comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, c'est la première fois en tout cas, pour l'époque, que je vois ces images aussi surprenantes que merveilleuses.
La réputation glorieuse de Blaise Diagne le précède. Mais comment peut-il convaincre dans un territoire marqué par les révoltes provoquées justement par les recrutements forcés de tirailleurs? C'est ce que j'essaie de comprendre depuis le début de cette enquête. Blaise Diagne, une légende franco-africaine, c'est la suite de notre second épisode documentaire proposé par RFI en partenariat avec les Archives nationales. Ouagadougou, capitale de la Haute-Volta, créée en 1919, un an après la fin de la Première Guerre mondiale. J'ai rendez-vous au Cercle des anciens combattants avec Paul Tondé, son président, Lassane Zoumoré, son vice-président, et Idrissa Korogo, le trésorier, pour leur montrer les photos de la mission Blaise Diagne. Le cercle de la discussion s'élargit avec l'arrivée du colonel-major Ali Paré, délégué aux anciens combattants du ministère de la Défense burkinabé.
Bon, d'abord, c'est l'intégration de Blaise même dans l'équipe. Et c'est déjà quelque chose. Un député africain et qui conduit une équipe à majorité française dans la tournée. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ça nous permet de voir aussi la différence qu'il y a entre cette époque-là et aujourd'hui. Et ensuite, certaines photos qui nous montrent l'équipe en contact avec les autorités coutumières à l'époque, les chefs traditionnels, notamment en zone Mossi. Et ce qui aussi frappe, c'est déjà la résidence des gouverneurs, l'arbre à palabres que vous nous avez montré, comment c'est organisé et comment le monde est sorti aussi pour écouter l'équipe.
Vous êtes impressionné justement par le monde, par la foule qui est présente sur ces photos à l'arrivée de Blaise Diagne au commissaire de la République nommé par Clémenceau.
Bon, moi je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de curiosité parce que j'ai déjà les véhicules qui accompagnent, qui amènent la délégation. Ça, je suis sûr que c'est une des premières fois que ces gens, la population voit les véhicules sur leur territoire.
Pour la première fois, un convoi d'automobiles sillonne les pistes africaines de la boucle du Niger. L'arrivée de la mission Blaise Diagne est spectaculaire, comme le montrent les photographies publiées sur RFI.fr dans notre long format numérique 1918 Mission Blaise Diagne. Des photographies décryptées par les historiens Claude Sissao et Amidou Diallo de l'université de Ouagadougou.
C'est très impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des voitures sillonner l'Afrique. Et à ce que je sache, même les commandants de cercle à l'époque se déplaçaient avec des moyens naturels, c'est-à-dire les chevaux, les ânes, qui parlent de la période coloniale, des travaux forcés, parlent des porteurs. Donc c'était des convois de porteurs qui amenaient les chefs, les administrateurs de brousse de village en village. Et là, c'est des voitures d'époque qu'on voit.
Et à la tête de ce convoi, c'est un Africain.
Voilà, c'est ça qui est frappant. C'est un Africain qui est à la tête de cette modernité. Blaise Diagne a fière allure. Il est habillé en costume, très beau costume, avec l'écharpe qui symbolise le pouvoir de la République. Et il en impose quand on le voit. Oui.
Est-ce que les tirailleurs qui sont recrutés ont également fière allure à votre sens? Et est-ce qu'il pouvait impressionner les jeunes villageois auxquels, justement, Blaise Diagne fait appel?
Oui, les photos que l'on voit montrent quand même qu'il y a un certain soin qu'on met à l'habillement des tirailleurs. Le costume, l'armement, ils ont des chaussures, des bottes, des pantalons, des redingotes, comme on dit, et tout est là. Je crois que, effectivement, quand on devenait soldat, avec les armes, on devenait puissant. Ça symbolise la puissance. Et l'homme symbolise la puissance. C'est celui qui fait peur aux autres et non pas celui qui fuit devant les autres. C'est un nouveau rite initiatique, disons moderne. Être soldat, c'est devenir un homme.
Comment on l'exprime dans votre culture morée?
Foya Rawa, tu es un homme. Ça veut dire que tu es courageux et que tu peux aller au bout de l'effort et te singulariser parmi les autres hommes.
Blaise Diagne, très impressionnant avec son costume trois pièces blanc, son casque colonial, son écharpe tricolore bleu-blanc-rouge de haut-commissaire de la République, reçu ici à Ouagadougou par la cour royale. Ce sont des photographies tout à fait étonnantes et inédites. Pour quelle raison Diagne, à votre avis, doit-il être reçu par le Moronaba de l'époque?
Oh, Blaise Diagne savait très bien comment il fallait toucher la population à la base. Même si on dit que les souverains africains n'avaient plus de pouvoir, pour l'Africain, le sujet africain, son roi était toujours un roi. Et c'est par lui que les mots d'ordre pouvaient passer plus facilement. Donc Blaise Diagne savait que ces chefs africains avaient toujours une aura auprès de leur population. Il fallait donc rencontrer ces chefs, les mettre en confiance et leur demander de faire répercuter les mots d'ordre de l'administration.
Amidou Diallo.
Le Moronaba a la prétention d'être le chef de tous les Mossé, même si la réalité est plus complexe. Il y avait d'autres royaumes, notamment Mossé, tels que le Yatenga, Boussouma, Tenkologo, peut ajouter aussi Fada. Mais disons que le colonisateur a aussi contribué à donner un poids plus important aux Moronaba qu'aux autres. M. Lizard disait qu'à la fin du 19e siècle, il y avait autour de 19, enfin une vingtaine de royaumes. Certains étaient indépendants, d'autres autonomes, d'autres relevaient du Moronaba. Donc ce n'était pas un empire, c'est une construction du colonisateur. Donc, qui a été intériorisé à tel point que le Moronaba estime qu'il est le chef suprême des Mossé.
À votre avis, Claude Sissao, que cherche à obtenir le Moronaba en contrepartie du sacrifice qu'il fait à la demande de Blaise Diagne pour la France?
Le Moronaba était conscient qu'il devait tenir compte des réalités du moment, surtout les réalités territoriales. Il voyait que son ancien territoire était commandé à partir d'une localité qui ne répondait pas à son pouvoir. C'est-à-dire que la capitale du Haut-Sénégal et Niger se trouvait plutôt à Bamako. Et le Moronaba pensait que lui, sa résidence étant Ouagadougou, devrait aussi être une capitale. Il pensait donc qu'en rendant service au pouvoir colonial, il pouvait être récompensé plus tard en élevant son territoire à un rang intéressant. Tout vient de là. Étant donné que le Moronaba a pu mobiliser beaucoup d'hommes pour la Première Guerre mondiale, on sait que dans ce qu'on va considérer comme le territoire de l'actuel Haute-Volta, il y a près de 16 000 soldats originaires des pays Mossé, sur 30 000 personnes recrutées. C'était un peu plus de la moitié. Donc, il pensait qu'il y avait une sorte de dette de sang de la métropole envers son territoire. Et je pense que de ce point de vue, il a été écouté.
Un chef Mossé doit être un homme digne, intègre, un homme de valeur, un homme soucieux et de l'avenir de la communauté dont il a la charge. Il doit être éligible au sacrifice pour sa communauté. On va descendre voir les composts solides et liquides que nous produisons ici pour renforcer la productivité des céréales et des légumes.
Alors je vous suis. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous puissiez dire à nos auditeurs, aux auditeurs de la Marche du Monde, qui vous êtes et où nous nous trouvons.
Je suis le Larlé Naba Tigré. Je suis un des ministres du Moro Naba. Le Moro Naba, c'est l'empereur des Mossé. Et voilà ce que je peux dire. Bienvenue à la commune de Dapelugo, le village Tampelga, à 46 km de Ouagadougou. J'ai cette ferme de 133 hectares, ferme et bio, que je veux écologique. Tout ce que nous produisons sur les 133 hectares, c'est de la culture biologique.
En face de nous, donc, un groupe de femmes qui repartent des champs, qui repartent de leur journée de travail avec leur bicyclette et leurs enfants. À votre arrivée, Larlé Naba Tigré, elles se sont toutes arrêtées et elles sont genoux à terre.
Oui, parce que dans nos traditions, le respect du chef, c'est culturel. Et le respect des aînés, c'est aussi culturel. Et c'est la raison pour laquelle elles se sont arrêtées. Parce que non seulement je suis le chef, mais aussi je suis le responsable de la ferme dans laquelle elles travaillent. Elles sont heureuses chaque fois de me voir ici. Voilà, voilà, ça les encourage, ça les stimule.
Alors aujourd'hui, Larlé Naba Tigré, nous traversons avec vous votre ferme. Nous la traversons dans un véhicule 4x4. Comment vous imaginez, il y a un siècle, votre grand-père sur ces terres, comment les traversait-il, lui ?
Bon, mais mon arrière-grand-père, bien sûr, c'était à cheval qu'il allait sur ces terres. Et ce n'était pas, bien sûr, ni à moto, ni en véhicule. C'est vraiment un privilège, un plaisir pour moi de traverser ces 133 hectares et que, où j'ai réalisé des routes pour faciliter mon passage. Ça me fait plaisir.
Revenons, si vous le voulez bien, à la Première Guerre mondiale et à ces photographies que nous regardons ensemble. C'est donc l'album retrouvé par Galandou Diouf qui retrace le recrutement des tirailleurs par Blaise Diagne en 1918, ici même, en pays Mossi. De quelle façon l'engagement du Moro Naba est-il raconté? De quelle façon le don des fils du Moro Naba à Blaise Diagne est-il raconté?
Cette histoire du Moro Naba, comme Dieu qui a donné son fils, qui était prince, c'était son prince héritier, c'était un engagement fort pour montrer combien le Moro Naba était engagé pour participer à la guerre du côté des Français. Et les populations, les vieilles personnes disent que vraiment, le Moro Naba ne pouvait pas faire mieux que de donner son fils. Parce que donner son fils, même si ce n'était pas le premier, c'est quelque chose d'inédit, c'était quelque chose de fort. Ce sacrifice, c'est comme Abraham qui donne son fils pour le sacrifice à Dieu. Et les Mossi, quand ils le racontent, c'est avec beaucoup de passion, c'est avec beaucoup de respect au roi, parce qu'il y a peu d'hommes qui accepteraient vraiment faire ça sur terre.
Je vous propose de commenter peut-être cette photographie qui a un siècle, que j'ai pu retrouver aux Archives nationales françaises, issue de l'album qui a été constitué par Galandou Diouf, le second de Blaise Diagne. J'aimerais vous laisser la commenter et nous dire qui vous voyez sur ce document photographique.
Oui, je revois sur cette image mon arrière-grand-père, le père de mon grand-père, le Larlé Naba Powidrogo, un grand homme de valeur connu et reconnu vraiment dans la communauté Moussi. À côté du roi, le Nabakoum II qui est au centre en habit de guerre rouge, chargé de beaucoup d'amulettes qui ont leur sens. Et c'est des habits qui se portent à des dates spéciales et des dates importantes de la vie du royaume.
Alors dans les arguments de Blaise Diagne, il y a cette phrase « En versant le même sang, vous obtiendrez les mêmes droits ». C'est une phrase qu'il venait prononcer dans les nombreuses palabres qui ont été organisées à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso, mais aussi à Koudougou, sur tout le trajet du recrutement, opéré donc par ce haut commissaire de la République, nommé par Clémenceau, le président du Conseil français de l'époque. Ouais. Est-ce que les Moussi pouvaient être également sensibles à ce discours de Blaise Diagne, finalement un discours sur la citoyenneté?
Et vraiment, je suis au regret de dire que les Moussi ont versé leur sang, mais ils n'ont pas eu les mêmes droits. Bien sûr, le Moro Naba, j'ai eu la chance d'accompagner l'actuel Moro Naba, Bangogo, en 94, au 14G, sur invitation du président Mitterrand. Je faisais partie de la délégation, le président Mitterrand nous a reçus à l'Élysée. Le Moro Naba n'a pas manqué de solliciter le président Mitterrand de voir comment améliorer la condition de rémunération des Burkinabés d'aujourd'hui. Et j'estime que Blaise Diagne a pris l'engagement et la responsabilité de mobiliser les hommes en son temps pour la cause de nos amis français et en tout cas pour le respect de sa mémoire. Il serait bon en tout cas de corriger les pensions et les droits, toute nature, de ceux qui ont participé derrière la France pour sa libération.
Et donc peut-être vous allez pouvoir nous permettre de rencontrer le chef des chefs des Moussi, le Moro Naba.
Bon, le Moro Naba, vous savez, c'est mon patron, c'est mon supérieur, c'est grâce à lui que je suis là. Le Naba, personne ne peut me donner cette chance d'être élevé dans ma famille, d'être élevé dans ma communauté que lui. Je suis soumis à ses ordres, c'est lui qui décide de qui il va recevoir. Et je souhaiterais qu'il vous reçoive pour que la communauté burkinabé, comme la communauté mondiale, puisse savoir que son ancêtre, le Nabakoum, a eu un geste vraiment fort et un geste historique et j'allais dire unique dans notre pays. Et cela mérite d'être connu et promu pour la génération actuelle et les générations à venir.
Comme tous les vendredis matins à Ouagadougou, les différents ministres du Moro Naba assistent à la cérémonie du faux départ, une mise en scène ancestrale de la sagesse du roi, à qui je veux offrir les photographies de son arrière-grand-père. Le secrétaire du palais me fait savoir que je peux m'avancer et montrer les images du roi Koum II à son arrière-petit-fils, l'actuel Moro Naba.
Son grand-père direct fut officier de l'armée française. Et nous en avons beaucoup d'anciens combattants sur notre territoire.
Le roi Moussi s'exprime officiellement en moré. J'enregistre son interprète, tandis que le Moro Naba découvre les images de Koum II qu'il ne connaît que sur les toiles peintes du palais.
Est-ce qu'il connaît cette photographie,
Ah non, il n'a pas ça. Il n'a pas cette photo. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il demande si vous pouvez lui en tirer quelques exemplaires. Voilà. Sa Majesté vous remercie très sincèrement pour votre visite et vous souhaite une bonne traversée pour rendre chez vous, quoi. Et surtout, elle insiste pour que vous fassiez connaître le Burkina Faso actuel par vos photos. Voilà.
Pour quelles raisons la royauté Mossi a-t-elle collaboré au recrutement des tirailleurs par Blaise Diagne, au-delà du témoignage d'amitié de Côme II aux représentants de la République française? Je pose encore une fois la question à mon retour à Paris, et cette fois au spécialiste de la royauté Mossi, Benoît Beuchet, historien à la délégation au patrimoine de l'armée de terre.
L'intérêt pour la royauté et pour la noblesse Mossi, c'est de montrer leur loyauté à l'égard de l'administration coloniale pour obtenir le maintien des institutions royales qui auraient pu être supprimées. Et puis également pour renforcer leur prestige et leur prestige aussi à l'égard de leurs sujets. Donc c'est quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué.
En ce qui concerne la création de la Haute-Volta en 1919, qui va être un territoire plus restreint que celui dont il émane, c'est-à-dire le Haut-Sénégal-Niger, qui est une colonie beaucoup plus vaste, qui englobe l'actuel Burkina Faso et l'actuel Mali. Est-ce qu'il y a un lien, Benoît Beuchet, entre la création en 1919 de la Haute-Volta et la participation de la royauté Mossi au recrutement des tirailleurs mené par Blaise Diagne en 1918?
Alors effectivement, il y a un lien, même si ce lien n'est pas direct. La première chose, c'est que le Sénégal-Niger, effectivement, est une colonie qui est très très grande. Son territoire est immense et difficile à administrer à partir de Bamako-Koulouba. Donc l'idée, c'est de scinder cette colonie en deux. Et l'idée, c'est de rapprocher les sujets de l'administration coloniale. Donc de créer un deuxième centre du pouvoir colonial. Ce deuxième centre du pouvoir colonial, il va être fixé, après bien des débats, à Ouagadougou, et c'est là que ce n'est pas un hasard.
Benoît Beuchet, de quoi était capable finalement le Moronaba en termes de recrues?
Alors, on attendait à peu près pour le cercle de Ouagadougou 8000 hommes environ. Il y a à peu près 9000 hommes qui ont été recrutés, donc 1000 de plus. Donc le recrutement a très bien fonctionné à Ouagadougou. Et s'il a fonctionné, ce n'est pas parce que les Mossi se sont rués vers les commissions de recrutement pour le prestige et l'attrait du métier militaire. C'est pour répondre aux ordres des chefs, et notamment de leur roi, le roi Côme II, le Moronaba. Donc ça montrait finalement toute la vitalité de ces institutions royales, le respect qui était attaché à la personne du roi, et donc la capacité du roi à tenir en main ses sujets. Et là, pour le coup, des centaines de milliers de sujets qui ne se sont pas révoltés pendant la Grande Guerre.
Dans les arguments utilisés par Blaise Diagne, il y a aussi une dimension pécuniaire, Benoît Beuchet, parce que l'on sait que le président français, Georges Clemenceau, donne beaucoup de moyens à Blaise Diagne pour mener à bien sa mission.
Alors effectivement, il a beaucoup de moyens. Clairement, au départ, c'était une prime de 200 francs qui était versée pour chaque recrue, et ça ne marchait pas. Et finalement, l'idée qui va être lancée, c'est une allocation de 15 francs par mois, payée directement aux familles, qui est jugée plus intéressante. Et c'est un argument aussi qui intéresse nos chefs et nos rois Mossi. Et on lit par exemple que, je cite, « Nos nabas, c'est-à-dire les chefs Mossi, s'ils sont avides d'autorité, sont encore bien davantage amoureux de l'argent. »
Qui écrit ces lignes?
Alors ça, c'est un rapport sur le recrutement de 1918 dans le cercle de Ouagadougou. C'est l'administration militaire.
Vous diriez, Benoît Beuchet, qu'il y a un intérêt commun, au fond, oui, entre l'administration coloniale, représentée donc par Blaise Diagne au moment de ce recrutement, et puis la royauté Mossi, représentée par Côme II, donc le Moronaba de Ouagadougou.
Effectivement, très certainement, il y a une convergence. L'idée, finalement, c'est de montrer que cet espace Mossi est un pôle de loyauté, un pôle discipliné par rapport aux voisins. Et pour justifier aussi la fixation du chef-lieu à Ouagadougou, c'est quand même plus facile de le faire en ayant montré que ces Mossi sont des gens disciplinés, qui obéissent à leur chef, que la chefferie ne doit pas être supprimée et que s'il y a un cœur politique et administratif à établir, il doit être à Ouagadougou. C'est pour des raisons essentiellement politiques que Ouagadougou a été choisi comme chef-lieu d'un territoire de plus de 270 000 km².
Benoît Beuchet, Blaise Diagne recrute 77 000 tirailleurs au lieu des 50 000 demandés par Georges Clemenceau, entre février et août 1918. Rappelons la date de la fin de la guerre et rappelons ce que sont devenus ces tirailleurs. Mmh. Est-ce qu'ils ont combattu?
Alors, une partie a combattu effectivement, mais il faut savoir que à l'été 1918, il n'y a qu'une toute petite partie des personnes qui ont été recrutées qui sont réellement incorporées. Mais finalement, pas tant de soldats que ça vont participer, je parle de tirailleurs sénégalais recrutés à ce moment-là, vont participer aux dernières offensives de la guerre. Ça, c'est le premier point. L'idée également de la mission Diagne, finalement, c'était de faire en sorte que les autres territoires de l'Empire soient finalement libérés de leurs soldats français qui pourraient partir ensuite au combat sur le front de l'Ouest. Il faut savoir aussi que, bon, effectivement, une partie non négligeable va se retrouver sur le front de l'Ouest et une partie stationnera en Allemagne. Va occuper une partie de l'Allemagne. Et donc, ces troupes vont rester en Allemagne bien au-delà du 11 novembre 1918.
Si les 77 000 soldats africains recrutés par le député Blaise Diagne en 1918 ont peu combattu sur le front européen, ils ont tous répondu à l'appel de la France et ont tous quitté leur foyer pour participer à l'effort de la guerre. La force de Blaise Diagne, c'est d'avoir cru à un avenir commun entre la France et l'Afrique, mais je crois que c'est aussi sa faiblesse. Les tirailleurs qui ont finalement obtenu la citoyenneté française se comptent sur les doigts de la main. Ils sont à peine une dizaine. Ainsi s'achève le second épisode de notre documentaire Blaise Diagne, une légende franco-africaine, signé Valérie Nivelon, Elliot Bourrel et Philippine Lebré, avec la complicité de Zénaïde Romanex et Jean-Pierre Batte, nos conseillers scientifiques. Une édition de La Marche du Monde, labellisée Mission du Centenaire, en partenariat avec les Archives nationales françaises. Et pour en savoir plus, je vous invite à découvrir notre long format numérique 1918 Mission Blaise Diagne sur RFI.fr. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur notre page Facebook, podcastez cette émission, c'est la vôtre.